Aux éditions Kelman Lévy.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
16h en ce jeudi 8 mai. L'actualité, Marc Tédé.
Donald Trump affirme avoir décroché un premier accord sur les tarifs douaniers. Il aurait été conclu avec la Grande-Bretagne. Le président américain doit le détailler dans quelques instants. Et puis de leur côté, les Européens affirment être pleinement toujours engagés pour parvenir à un accord avec les États-Unis, mais ils n'entendent pas se plier aux exigences de Washington. La présidente de la Commission annonce une plainte des Européens devant l'Organisation mondiale du commerce. Ursula von der Leyen promet aussi des représailles en cas d'échec de ces négociations avec des taxes sur 95 milliards d'euros de biens importés des États-Unis vers l'Europe, notamment dans le secteur aéronautique et celui de l'automobile. Pendant ce temps-là, le président russe et son homologue chinois Xi Jinping affirment la bonne entente de leurs deux pays lors d'une rencontre à Moscou. Vladimir Poutine et Xi Jinping jugent profondément déstabilisant le projet de bouclier antimissile américain. Le président chinois annonce par ailleurs que son pays se tient aux côtés de Moscou face à, je cite, un harcèlement hégémonique. Et enfin, au Vatican, des fidèles catholiques se rassemblent cet après-midi place Saint-Pierre dans l'attente des résultats d'un troisième tour de scrutin du conclave. Mais pour le moment, seules deux fumées noires se sont échappées de la fameuse cheminée de la chapelle Sixtine où sont enfermés les cardinaux électeurs. En France, un mineur, toujours entre la vie et la mort à Paris, renversé tout comme deux autres personnes blessées par une voiture aux abords des Champs-Élysées. C'était hier soir en marge des célébrations de la victoire du PSG contre les Anglais d'Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions de football. Célébration également marquée par des échauffourées. 44 personnes ont été interpellées. Enfin, les
éléments nouveaux, mais aussi des éléments d'expectative également nouveaux. Nous avons à plusieurs reprises expliqué ici comment plus petit que l'atome existait une vie de la matière et que cette vie de la matière se situait pour l'instant, enfin dans l'esprit des chercheurs, à un échelon presque ultime qui était la particule élémentaire, élémentaire comme son nom l'indique. Or, tout récemment, on vient de découvrir quelque chose que l'on pense être de nouvelles particules élémentaires. C'est bien ça, Charles-Noël Martin ?
Oui. Le tableau, vraiment, des particules que l'on pensait être élémentaires, car il faut maintenant mettre ça au passé. Ce tableau comportait une trentaine de particules d'objets très fugaces, d'origine nucléaire, c'est-à-dire ayant leur siège dans l'atome, et non seulement dans l'atome, mais encore dans ce que l'atome a de plus petit en lui, ce centre, ce soleil, en quelque sorte, du fameux système planétaire qu'est un atome, de particules soit stables, le proton, le neutron, l'électron, soit instables, les mésons. Tout le monde a entendu parler plus ou moins maintenant des mésons. Mais les théoriciens ont souvent pensé, depuis déjà longtemps, que ce tableau n'était pas définitif et qu'il devait y en avoir d'autres. On est parvenu effectivement, à la suite des grandes expériences qui ont été menées dans les principaux laboratoires du monde, et vous le savez, à partir d'accélérateurs de particules géants, d'appareils qui ont des kilomètres maintenant de tour, celui du CERN, celui de Brookhaven, ce tableau vient de s'enrichir. Ce sont des particules d'ordre nucléaire qui vivent un cent millième de milliardième de seconde. Ceci ne nous dit absolument rien à l'esprit. Je vous aurais dit un millionième ou un milliardième de seconde, ça nous paraît déjà d'une brièveté absolument déconcertante.
Voilà un extrait de l'émission Page des sciences diffusée sur la RTF en 1962. Préden Rouleau, voilà, on sait que l'atome n'est plus la première brique élémentaire puisqu'ils sont eux-mêmes faits de particules plus fondamentales, ce qu'on entendait dans cette archive.
Oui, alors c'est vrai que le modèle standard décrit en quelque sorte les particules élémentaires et leurs interactions. Donc on peut parler des quarks, des leptons, des bosons de jauge, le boson de Higgs par exemple, et qui interagissent via trois forces électromagnétiques, faibles et fortes. En quelque sorte, nous dans notre laboratoire, on travaille essentiellement sur les électrons et les interactions entre électrons.
Thierry Jolicoeur, quelle est votre oreille sur cette archive, votre écoute contemporaine sur cette découverte de nouvelles particules élémentaires qui fait monter leur nombre de 30 à 33?
Oui, alors je ne jurerais pas que ces nombres, même à ce moment-là, étaient bien ceux-ci. Hein, ça, je n'en suis pas du tout certain. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un moment où on a réalisé que les constituants du noyau, à savoir les neutrons et les protons, étaient des objets qui n'étaient pas élémentaires et qui avaient des entités plus petites à l'intérieur des protons et des neutrons. Et ces particules qui sont plus élémentaires, donc c'est ce qu'on a appelé les quarks dans les années 60. Voilà.
Alors ces quarks, en effet, dans les années 60, qui composent les protons et les neutrons, qui sont au cœur de ce tableau, hein, ce modèle standard de la physique des particules, c'est un peu comme un tableau des composants fondamentaux de la matière et des forces qu'elle subit. Thierry Jolicoeur, dans ce modèle standard, les briques qui fondamentales qui constituent la matière ne sont pas très bien définies. Enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'elles sont des particules quantiques, des champs quantiques ou une combinaison des deux? En tout cas, une particule, quand on dit ça, il ne faut pas imaginer des petites billes miniatures.
Non, alors ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai que il faut pas prendre les idées du monde de tous les jours dans laquelle on vit et imaginer que c'est directement la transposition de ces idées qui va être valide dans le monde microscopique pour des distances arbitrairement petites. Ça, il n'y a pas de raison que ça soit vrai et ça n'est pas vrai. Donc la vraie réponse, mais qui est un petit peu abstraite, est de dire que c'est des champs quantiques qui décrivent la matière. On a tendance à les appeler élémentaires parce que ces champs ont des excitations élémentaires et on les appelle des particules élémentaires. Mais ça, c'est un petit peu déjà une image très partielle de la réalité. Voilà. Alors après, on en a une liste exhaustive et on connaît les forces entre ces champs quantiques. Donc on va dire les forces entre ces particules. C'est ce que disait Preden tout à l'heure rapidement. On connaît l'inventaire des particules qui sont élémentaires au moins jusqu'à aujourd'hui et des forces entre elles. C'est ça qui est le modèle standard.
Preden Rouleau.
Alors, c'est vrai que moi, si je peux me ramener à quelque chose que je connais bien, qui sont les anions. Donc, les anions, c'est on considère un certain nombre d'électrons qui sont dans un gaz bidimensionnel. Et lorsque on prend en compte les interactions entre ces électrons, il y a un nouvel état qui émerge et qui peut porter, par exemple, une charge fractionnaire. Donc, faut pas s'imaginer que la charge a été coupée en deux, en trois, par exemple. Mais il faut vraiment s'imaginer que l'excitation de cet état, en quelque sorte, de cette quasi-particule, qui est un sorte d'état collectif, porte une charge fractionnaire que l'on peut mesurer dans nos laboratoires. Donc c'est ce qu'on fait.
Voilà, les anions qui ne sont pas des particules fondamentales comme des électrons, des photons, mais des quasi-particules. Exactement. Donc on reviendra sur cette catégorie-là, sur ces bestioles-là. Mais d'abord, Thierry Jolicoeur, qu'est-ce que la matière dite condensée, qu'a-t-elle de si particulier? Quelle différence finalement entre physique de la matière condensée et physique des particules?
Bah, la physique de la matière condensée, quand on dit ça, ça veut dire qu'on s'intéresse à la physique d'une énorme quantité de matière. Donc c'est le côté macroscopique versus le côté microscopique. La physique des particules élémentaires, elle va décortiquer les propriétés des particules jusqu'à les diviser de la manière la plus fine possible et à les regarder, on va dire, une par une. La physique de la matière condensée, elle s'occupe d'énormes assemblées de matière. Et dans cette matière, il n'y a plus que les particules stables, en fait, qui sont présentes. Donc, à savoir les électrons, les protons et les neutrons. Ça suffit pour décrire la physique de la matière condensée. Il y a d'autres particules élémentaires, mais en fait, elles ne jouent pas de rôle dans la physique de la matière condensée. La physique de la matière condensée, c'est celle avec laquelle on fabrique tout ce qu'on connaît dans la vie courante. On fabrique tous les composants électroniques, on fabrique tous les circuits dans lesquels passe de l'électricité, et tout ce genre de choses.
Oui, c'est qu'à cette échelle-là, à l'échelle de la physique de la matière condensée, à cette échelle mésoscopique, donc aux limites du monde macroscopique et celle du monde nanométrique, dans certaines conditions, Thierry Jolicoeur, on observe des phénomènes dus au comportement collectif de particules.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Il faut bien voir qu'il y a eu, pendant très longtemps, le point de vue était que si vous découpez la matière en constituants de plus en plus petits, donc quand vous y arrivez, eh bien, vous obtenez des composants plus élémentaires et du coup vous divisez la charge électrique, par exemple, entre ces composants. Donc c'est typiquement ce qui arrive avec le, si on prend le proton ou le neutron, dont on sait que ce ne sont pas des particules élémentaires. Dedans, on sait qu'il y a des quarks, il y en a même trois, et on sait que leur charge, c'est un tiers de la charge totale du proton, par exemple, qui a une charge positive, opposée à celle de l'électron. Et on est habitué, disons, l'image naïve qui se trouve être vraie, là, dans le cas de cette physique des particules, c'est que si vous arrivez à regarder les constituants élémentaires, eh ben vous allez trouver qu'ils ont une partie de la charge du tout. Donc c'est une idée simple à laquelle on s'attend vraiment et qui se trouve être vraie. Alors dans la physique de la matière condensée, on s'est rendu compte, mais alors complètement par surprise, donc dans les années 80, pour le coup ça a été une surprise conceptuelle totale, qu'en fait, il y a aussi le phénomène inverse qui est vrai. C'est-à-dire que dans la matière condensée, donc des assemblées avec des nombres monstrueux d'électrons, protons et neutrons, des objets macroscopiques qui conduisent l'électricité, eh bien, vous pouvez voir expérimentalement des propriétés électroniques dans lesquelles apparaissent des fractions de la charge de l'électron ou du proton. Ce qui semble complètement invraisemblable, puisque si vous voulez voir une fraction de la charge de l'électron, naïvement, vous allez dire, il faut que je le découpe en morceaux, il n'y a rien à faire. Eh bien, en fait, non, ce n'est pas ça qui se passe. Et ça a été, c'est une découverte expérimentale du début des années 80, qui s'appelle l'effet Hall quantique fractionnaire. Ça, Prenen va nous raconter en long, en large et en travers de quoi il s'agit. Enfin, j'espère. En tout cas, dans ce phénomène-là, eh bien, vous avez le phénomène en quelque sorte inverse de l'élémentarité. Vous fabriquez des entités qui ont pourtant une charge plus petite que celle des constituants.
Prenen Rouleau.
Alors oui, effectivement, la mesure de la charge fractionnaire a été réalisée pour la première fois dans notre laboratoire. Moi, j'y étais pas, j'étais un peu jeune, par Christian Glatly et puis son équipe. Donc en utilisant un outil qui est la mesure des fluctuations du courant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est lorsqu'on mesure les fluctuations du courant, c'est-à-dire en quelque sorte le bruit, on a des informations sur la valeur de la charge. Donc ça, c'est une mesure fondamentale. Landauer disait que le bruit était le signal. Et en mesurant donc ces fluctuations de courant, Christian Glatly et son équipe ont extrait pour la première fois une charge fractionnaire 2 sur 3. Voilà. Donc ça a donné lieu à un certain nombre d'expériences de mesures de bruit dans d'autres laboratoires, par exemple au Weissmann, dans l'équipe du professeur Mottier et Blum. Et en quelque sorte, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans ces gaz bidimensionnels d'électrons, qui sont soumis à des champs magnétiques très forts, hein, on a besoin d'une dizaine de Tesla typiquement, on peut mesurer des charges fractionnaires E sur 3, E sur 5. C'est quelque chose qu'on fait avec mon équipe actuellement. Donc on aura peut-être l'occasion d'en discuter par la suite.
Tout à fait, puisqu'on parlera des expérimentations. Mais pour revenir justement sur les fondamentaux, pour comprendre, on va évidemment venir à cette étude sur les paraparticules, mais d'abord, Thierry Joulicoeur, on évoque souvent des approches statistiques en mécanique quantique pour étudier ces particules. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de statistique ?
Alors, la statistique, en fait, elle réfère au comportement d'assemblée de particules. Et là, il y a ces fameuses deux catégories, les bosons et les fermions, où, à gros traits, on va dire que les bosons, vous pouvez tous les mettre, je vais dire, dans la même boîte, ce qui veut dire, en fait, dans le même état quantique, quel que soit précisément ce que veut dire l'état quantique, tandis que les fermions n'aiment pas du tout ça, et eux, il n'est pas question d'en mettre plus qu'un par boîte, autrement dit, pas plus qu'un dans un état quantique donné. Et on sait que les particules élémentaires, eh bien, elles se classent strictement selon cette dichotomie, boson versus fermion. Et ça a un impact énorme sur les propriétés de grandes assemblées de ces bosons et de ces fermions, qui se trouvent ne pas du tout avoir les mêmes propriétés. La stabilité ultime de la matière, on va dire, pourquoi quand on est assis sur une chaise, celle-là, elle ne s'écroule pas, c'est vraiment parce que les électrons, les protons et les neutrons sont des fermions. Il n'est pas question de tout mettre en gros, de tout aplatir comme une crêpe et de tout mettre dans le même état quantique. Il y a une résistance fermionique de la matière qui est vraiment due à cette notion de statistique. Donc c'est ça vraiment qu'on appelle la statistique. Alors pourquoi il n'y a que deux statistiques quand on dit ça? Donc c'est vrai pour les particules élémentaires, mais ça c'est vrai parce qu'elles se déplacent, dans l'espace tridimensionnel. Elles peuvent aller en haut, en bas, à droite, à gauche. Et puis, on sait aussi qu'il y a l'écoulement du temps qui est une quatrième dimension. Donc en fait, c'est à cause de ce nombre de dimensions, essentiellement, qu'il n'y a que deux statistiques. C'est absolument pas évident, c'est absolument pas intuitif, et il a fallu beaucoup d'années aux théoriciens à comprendre pourquoi c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, une clé pour s'échapper de cette situation, c'est de diminuer le nombre de dimensions d'espace. Et si vous regardez une situation dans laquelle le mouvement n'est pas tridimensionnel, mais bidimensionnel, autrement dit, votre particule, elle peut juste se déplacer dans un plan, mais elle ne peut pas sortir du plan, et bien là, justement, il y a un échappatoire à cette histoire de dichotomie boson-fermion, et vous pouvez faire autre chose. Et vous pouvez faire, en fait, toutes les situations intermédiaires entre les deux, et c'est ça qu'on appelle les anions. Voilà.
Ah, les anions. Et comme vous dites, en effet, les fermions qui ne peuvent pas occuper le même état quantique, ça c'est le principe d'exclusion de Pauli. Les bosons, eux, ne sont pas soumis à ce principe d'exclusion. Ils peuvent donc se regrouper. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi on arrive à créer des lasers. Alors, ce modèle standard de particules n'est pas une théorie complète des interactions fondamentales. Il est mis en défaut par plusieurs observations, et notamment avec les quasi-particules. Restez avec nous.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Préden Rouleau et Thierry Jolicoeur, nous parlons de physique des particules, de paraparticules, de quasi-particules. De manière générale, la physique des particules considère qu'il n'existe que deux types de particules en mécanique quantique, les fermions et les bosons. Les anions sont une exception notable, mais ils existent uniquement en deux dimensions, c'est ce dont nous venons de parler. Alors, que trouve-t-on en dehors du monde des particules du modèle standard, Thierry Jolicoeur ? On a notamment ces quasi-particules. Hein, on peut voir quelle est la particularité de ces bestioles-là.
Eh bien, écoutez, donc les quasi-particules, elles sont faites évidemment de particules dites élémentaires.
Fréquence 3, la radio 100% locale. C'est 100% Loir-et-Cher.
100% Loir-et-Cher.
J'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Nous sommes proches de la nuit. Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane. Partons, allez, viens. Bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez, viens. Allez.
I'm
écoutez, c'est un collecteur fréquence 3.
C'est ça, Marie Conte, yeke yeke, sur la radio locale, fréquence 3. Qu'avez-vous prévu de votre week-end? Est-ce que vous êtes en long week-end? Est-ce que vous travaillez demain? N'hésitez pas à me le dire sur la page Facebook fréquence 3, la radio locale, ou le numéro WhatsApp 09 54 29 37 deux fois. La rafale de tubes que je vous promets juste après la pause, on aura Lisa, Andrea Bocelli et Kenji Girac, ou encore Tommy Richman.
Tous vos programmes Fréquence 3 diffusés en Touraine et en Loire-et-Cher sont également dispo en ligne.
À tout moment. Réécoutez l'info,
la météo,
l'agenda de la région et tous vos rendez-vous préférés en podcast
sur fréquence3.com et l'appli Fréquence 3. Fréquence 3. Retrouvez Raphaël de Tulle dans le Loire-et-Cher.
En moins de 2 minutes.
La ferraille, c'est comme votre monnaie. C'est précieux. Professionnels, particuliers, déposez vos métaux ou votre ferraille chez De Richebourg Environnement et repartez avec un chèque. De Richebourg Environnement à Fossé et Saint-Ouen. Plus d'infos sur derichebourg.com.
Envie de voyager en Polynésie? Rendez-vous les 24 et 25 mai à la salle Eva Paris de Motodon pour un week-end 100% polynésien. Au programme, artisanat d'art, massage, initiation à la danse tahitienne et dîner-spectacle. Venez découvrir la culture des îles avec l'association La Cuisine des îles d'Eraini 987. Plus d'infos sur le Facebook La Cuisine des îles d'Eraini 987. Ou par téléphone au 06 75 24 78 39. 06 75 24 78 39.
Sur Fréquence 3, c'est que de la pub locale.
Que de la pub locale et une rafale de tubes.
Que vous soyez professionnel ou particulier, choisissez l'entreprise Defin, spécialiste en terrassement et travaux publics. Plus de 39 ans d'expérience au service de vos terrassements, assainissement autonome, tranchées techniques, petite démolition, viabilisation, pose de clôture et aménagement extérieur. Entreprise Defin à Autrèche ou sur www.defin-37.fr.
Besoin d'aide pour votre déclaration de revenus? Des permanences impôts sont organisées à destination des habitants du Castel Renaudet les jeudis 15 et 22 mai de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Prenez rendez-vous au 02 47 29 57 40 02 47 29 57 40 et retrouvez plus d'infos sur www.cc-castel-renaudet.fr.
Dimanche 18 mai, rendez-vous à Saint-Nicolas-des-Motets pour le grand vide-grenier du comité des fêtes. Pour les exposants, installation des 6h, seulement 1€ par véhicule. Sur place, buvette, restauration et jeux pour les enfants. Ne manquez pas cette journée conviviale. Infos et inscriptions au 06 10 30 76 44. 06 10 30.
Entre monts et marées. Sortir de l'enfance entre monts et marées. Sortir de l'enfance et Charlevoix, ventre infini. Ventre infini, pays, mer et Dieu, terre, mer et Dieu, Saint-Joseph de la rive, Assomption de la Vierge, Jacques Cartier sur la grève, monts et voiles immergés, et Charlevoix, ventre infini, Charlevoix, ventre infini, pays, mer et Dieu, terre, mer et Dieu. Volé, D'un et superbe, aimer le tout et le rien, aimer le tout et le rien, se couvre d'eau à chaque marée, se couvre d'eau. Why did you separate me from the earth? Why did you separate me from the earth, my father? You drew lines miles high and steel or nuclear. The forests of Borneo and wire water in your mouth. I don't want your future, and I'll never return. I'll be born into the past. I never, never coming home. Why did you separate me from the earth? What did you say to you? Why did you separate me from you? From you. Mm-hmm. The rotten body's threaded gold, the pitch of care sticky meat, the sea life cut with plastic, a white cross gilded gold. A case of white dust laying in the boiling snow. A sharp knife of concrete, the blue line of tuna's throat. And I don't want your future. I'm never, never coming home. I don't want your future. I'll be born before you're born. Why did you separate me from the earth? What did you have to gain? Why did you separate me from the earth? What did you have to gain? From the earth, from the earth, from the earth, from the earth. What did you have to gain?
bras, douce belle dans la peau. Deux duchesses et didactylos. Qu'est-ce que t'auras de plus sinon qu'un peu de plomb? Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand t'auras claqué ton grisby dans toutes les boîtes à coups de fusil, tu ne seras jamais qu'un pigeon avec un peu de plomb, un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand dans le feu de la passion, aux échelles des banilons, tu grimperas, après qu'est-ce que t'auras? T'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle.
Joseph 91.1 agitateur de fréquence.
Premier mouvement de la 4e symphonie opus 21 d'Albéric Magnard, enregistré en juin 1983 par l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson, bien sûr. Et Albéric Magnard, né en 1865, est non seulement influencé par Wagner, qu'il découvre à Bayreuth, je l'ai dit plus tôt. À cela s'ajoute l'influence de Beethoven et le rejet de ce qu'il appelle les sortilèges harmoniques de Debussy. Et on sait aussi que Magnard a connu un destin curieux. Il était un artiste sincère, totalement engagé dans son œuvre. Et comme beaucoup de Parisiens, il est attiré par l'air de la campagne. Alors en 1905, il s'installe dans l'Oise, près de Senlis. Et si je vous parle de lui précisément aujourd'hui, c'est parce qu'il est mort d'une manière tragique. En septembre 1914, des soldats allemands franchissent le seuil de sa propriété. Magnard ne veut pas se rendre, sa maison est incendiée, son corps disparaît au milieu des flammes, ainsi que ses manuscrits et les œuvres d'art dont il aimait s'entourer. Et je vous propose à présent un extrait de sa troisième symphonie. Elle est sous-titrée « Bucolique » et nous retrouvons ainsi le très grand Michel Plasson.
Thank you.